Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui sera Jean-Marie Arribet, professeur d'économie à Bordeaux 4. Alors, qui écoute des sous depuis longtemps, c'est que j'ai mes chouchous. On sait que Jean-Marie Arribet est l'un d'entre eux. Et je l'ai croisé à l'université d'été d'Attaque, comme Anne-Cécile Robert et Michel Husson, que nous avons entendu précédemment. Et je l'ai coincé, lui aussi, sournoisement, dans un petit coin. Alors, j'étais partie d'un petit bout de phrase que je lui avais entendu dire et qui avait éveillé ma curiosité. Mais alors, comme vous allez le voir par mon silence éloquent, j'ai eu un petit peu de mal à tout comprendre. En tout cas, vous, vous allez pouvoir écouter, j'espère comprendre, Jean-Marie Arribet dans toute sa splendeur, rigoureux et logique. Alors arrêtez tout, lâchez votre stylo, votre clavier, vos balais, vos aspirateurs. Jean-Marie Arribet, himself. Je vous ai entendu dire globalement que finalement, les enseignants, par exemple, n'étaient pas d'énormes parasites de la sphère productive. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je vous pose des questions. Par exemple, moi, je ne suis pas un parasite.
Nous vivons depuis 25 ans environ une nouvelle phase de l'histoire du capitalisme que l'on appelle habituellement la phase du néolibéralisme, qui est caractérisée par la tentative de marchandiser le plus d'activités humaines possible pour élargir la sphère de l'économie où le capital peut se rentabiliser. Et ce n'est pas un hasard s'il a cette volonté, c'est parce qu'il a traversé une grave crise depuis la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 70 et après avoir libéralisé le mouvement des capitaux, leur avoir donné la possibilité de se déplacer totalement librement sur toute la surface de la planète, il tente maintenant de restreindre le plus possible toute la sphère non marchande, qui est le plus souvent publique, et qui constitue pour lui une sorte de cible, de fromage, si je voulais employer un langage un peu familier, qu'il convoite parce que la nécessité d'élargir constamment la sphère de l'accumulation est une constante dans l'histoire du capitalisme. Mais pour se parvenir à cette fin, il a besoin de délégitimer l'intervention publique. Et dans le cadre de cette délégitimation, on a vu fleurir au cours des dernières années plusieurs arguments. L'un qui est connu chez les économistes sous le nom d'effet d'éviction, si l'État investit, s'il paye des salaires aux fonctionnaires, il capte une partie de la richesse nationale que le secteur privé aurait pu utiliser beaucoup plus efficacement, nous dit-on, et ainsi l'intervention publique de l'État est jugée néfaste et bien sûr spoliatrice. Puisqu'il y a des prélèvements obligatoires qui sont effectués pour financer l'intervention publique, que ce soit celle de l'État, des collectivités locales ou des organismes de protection sociale. Prélèvements soit sous forme d'impôts, soit sous forme de cotisations sociales. Donc, face à cette délégitimation politique et idéologique, et qui est justifiée par tout un arsenal pseudo-théorique que l'on trouve dans dans la littérature libérale. Face à cela, bon, il est nécessaire de trouver un autre argumentaire que celui qui avait été présenté jusque-là par les économistes ou les penseurs se situant en marge de l'orthodoxie, ou voire hétérodoxe. Et cette nouvelle argumentation est pour l'instant relativement absente. Donc, presque tout est à faire. Parce que, finalement, chez les libéraux, on trouve l'idée que la sphère non marchande est financée par une ponction sur la sphère privée, comme vous le disiez en introduction, donc les salaires des fonctionnaires constitueraient un prélèvement sur le produit de l'activité marchande. Et curieusement, une certaine tradition marxiste, donc complètement hétérodoxe, complètement critique par rapport à la pensée libérale, mais curieusement, une certaine tradition marxiste par rapport à laquelle je prétends qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec la pensée de Marx lui-même, mais une certaine tradition a véhiculé l'idée, pas si éloignée que cela de la présentation libérale, idée selon laquelle les services non marchands, donc l'éducation, la santé, etc., sont financés par un prélèvement sur la plus-value qui est produite dans le secteur capitaliste considéré comme seul productif. Or, il y a une première erreur de raisonnement qui va servir justement à élaborer en contrepoint une autre argumentation, une erreur de raisonnement consistant à confondre un travail productif de plus-value, donc pour accumuler le capital, donc un travail productif de capital, grâce à la vente des marchandises, et un travail productif de valeur d'usage, non marchande, mais qui sont d'authentiques richesses, comme l'éducation, la santé, etc. Donc face à l'argumentation libérale et malheureusement face à une tradition de gauche extrêmement répandue, il me paraît intéressant de développer un autre argumentaire. Cet autre argumentaire, pour l'instant, n'est pas suffisamment partagé pour qu'on soit sûr que l'argumentation libérale soit balayée, mais la tâche des altermondialistes est justement de construire des raisonnements, de proposer des raisonnements qui puissent servir d'outils de lutte ensuite.
Aligre FM 93.1.
L'argumentation que je propose, elle est la suivante. Elle va partir de la distinction de la production de valeur d'usage ou bien de la production de valeur marchande, donc distinction que l'on trouve chez les économistes classiques et que Marx avait remise à l'honneur, et d'un deuxième concept, alors là que l'on doit à Keynes, qui est le concept d'anticipation. Alors voici comment se déroule le raisonnement. Dans l'activité économique capitaliste, il y a deux types d'agents producteurs. Les entreprises privées, donc dont le but est de faire du profit pour les actionnaires, pour les propriétaires du capital, et les administrations publiques, État, collectivités locales, fonctions hospitalières, etc. Comment se déroule l'activité capitaliste? Alors, Keynes a proposé le raisonnement suivant. Les entreprises privées anticipent la demande qui s'adressera à leurs marchandises ensuite. Elles anticipent cette demande et en fonction de cette anticipation, elles décident d'embaucher et d'investir, c'est-à-dire d'embaucher des salariés et d'acheter des équipements productifs pour lancer le processus productif. Et cette décision d'embauche et d'investir nécessite une injection monétaire. Une injection monétaire qui qui elle-même nécessite ce que les économistes appellent une création monétaire. Autrement dit, le secteur bancaire va faire l'avance de la valeur de la production et en particulier faire l'avance des salaires et des investissements que les entreprises décident de mettre en œuvre. Et bien sûr, la vente des marchandises ensuite, si elle se réalise, permettra aux entreprises de rembourser l'avance qui avait été faite par le secteur bancaire. Donc cette injection monétaire lance le processus productif décidé par les entreprises sur la base des anticipations qu'elles ont effectuées. Bon. Si tout se déroule conformément à ces anticipations, les marchandises sont vendues, les entreprises donc ont bien anticipé et le capital voit le profit donc revenir à lui et ainsi l'accumulation est enclenchée. Ça, ce raisonnement-là est globalement admis maintenant par une grande partie de la communauté des économistes et ne souffre pas trop de discussion. L'élément supplémentaire que j'avance est le suivant. Pour le secteur non marchand, c'est-à-dire pour la production non marchande qui va être effectuée dans les administrations publiques, les trois catégories que j'ai énumérées tout à l'heure, que se passe-t-il? L'État, je vais parler de l'État, mais il faudra l'entendre, collectivité locale ou fonction hospitalière, peu importe. L'État n'anticipe pas une demande solvable comme le font les entreprises. L'État anticipe l'existence de besoins sociaux, de besoins collectifs. Que fait-il? Eh bien, il lance la production en embauchant les salariés, on va appeler fonctionnaires pour aller vite, et pour en réalisant des investissements. Bon, donc il achète des équipements et il embauche des salariés. Mais là aussi, il y a une injection monétaire qui est nécessaire pour impulser cette dynamique-là. Que se passe-t-il ensuite? La validation que l'on a vue se réaliser par le biais de la vente des marchandises pour les produits réalisés par les entreprises privées, cette validation, dans le cas public, dans le cas non marchand, ne se fait pas par une vente sur le marché. Cette validation est effectuée par l'adhésion des citoyens au paiement de l'impôt. Alors, quelle différence y a-t-il entre le raisonnement que je propose et celui que l'on rencontre le plus habituellement dans tous les manuels d'économie bien pensants, et même, je le disais, malheureusement, dans une certaine tradition de gauche véhiculée, en particulier par la tradition marxiste? La différence entre les deux types de raisonnement est la suivante. Il n'y a pas, à mon sens, de prélèvement obligatoire, donc. Il n'y a pas de prélèvement sur quelque chose qui préexisterait à l'existence du service public non marchand. Il y a un prélèvement sur un PIB total qui se trouve déjà augmenté du résultat de l'action publique non marchande. Autrement dit, le prélèvement obligatoire n'est pas une ponction sur la sphère privée. Le prélèvement obligatoire est un prélèvement sur le fruit de l'activité marchande en partie, mais également sur le fruit de l'activité non marchande qui résulte de la décision d'impulser une activité de ce type-là, par le biais de l'embauche de salariés fonctionnaires et par le biais de la mise en œuvre d'équipements collectifs. Et là, on effectue une rupture radicale entre le raisonnement à base de prélèvement sur la sphère marchande, privée, en langage libéral, ou bien sur la plus-value capitaliste produite par le secteur, à l'intérieur du secteur capitaliste. Donc, à ce moment-là, on peut, de mon point de vue, démonter l'argumentation selon laquelle il y aurait une sorte de parasitisme, de ponction totalement injustifiée d'une partie de l'activité marchande pour financer les activités non marchandes. Alors, on peut, pour rendre ce raisonnement totalement inhabituel, j'en conviens, pour rendre ce raisonnement plus compréhensible par ceux qui ne sont pas habitués à l'entendre, raisonner de la manière suivante. On entend dire tout le temps que les salaires des fonctionnaires, donc, sont financés par un prélèvement sur l'activité non marchande. Mais ce raisonnement-là n'a pas plus de valeur que si je disais que les salariés de chez Renault sont rémunérés grâce à un prélèvement sur les consommateurs. Parce qu'effectivement, Renault va vendre des automobiles et la boucle du circuit repartira en réembauchant des salariés pour la période suivante, et puis ainsi de suite, nouvelle production, nouvelle vente, et ainsi de suite. Mais le fait que les consommateurs d'automobiles, les acheteurs d'automobiles paient donc les automobiles qu'ils achètent à l'entreprise qui les a produites, ne signifie pas que les salariés sont payés par un prélèvement sur les consommateurs. Les salariés sont payés parce qu'il y a une valeur ajoutée qui a été produite dans l'économie, et une partie de cette valeur ajoutée sert effectivement à payer les salaires, et les cycles se reproduisent de période en période ainsi. Et de la même manière, la validation par le paiement de l'impôt citoyen permet effectivement que le cycle se reproduise de période en période, d'année en année, mais ça n'est en aucune manière une preuve logique que les salariés de l'État, de la fonction publique de manière générale, et surtout plus précisément de la fonction publique non marchande, sont payés par un prélèvement sur le fruit d'une activité qui serait extérieure à elle-même. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que Les libéraux nous expliquent que si on diminuait les dépenses publiques, que si on diminuait les dépenses hospitalières, parce qu'on a une réforme de l'assurance maladie, après celle des retraites qui est intervenue, parce que, soi-disant, ces dépenses-là sont trop élevées et, sous-entendu, injustifiées. Eh bien, le fait que la fonction publique non marchande soit... est une activité qui se reproduise de période en période grâce effectivement au paiement de l'impôt sous toutes ses formes de manière générale en incluant les cotisations sociales, n'est en aucune manière une preuve qu'il s'agit d'une ponction sur le fruit de l'activité privée. C'est même quelque chose que l'on peut expliquer sur le plan logique. On ne peut pas prélever une somme sur une assiette qui ne préexisterait pas au prélèvement. Il faut donc, sur le plan logique, que la base ait été produite, que l'assiette soit effectivement réalisée pour qu'il y ait un prélèvement qui puisse être effectué. Et pour emporter la conviction, on peut raisonner, faire un raisonnement à la limite, comme disent les mathématiciens, et dire la chose suivante. Supposons que la société décide démocratiquement de diminuer jusqu'à zéro la sphère marchande. Tout devient non marchand. Autrement dit, toute l'activité productive se déroule dans le cadre, dans un cadre non marchand, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr des prélèvements, et la consommation ensuite n'est plus proportionnelle au paiement individuel, mais le financement est socialisé. Bon. À ce moment-là, au fur et à mesure qu'on tend vers une proportion de la production marchande vers 0%, et à partir du moment corrélativement où on tendrait vers une proportion de la production non marchande vers 100%, est-ce qu'on pourrait continuer de dire que la production non marchande serait financé par un prélèvement sur une production marchande qui tend vers 0%, ça n'aurait strictement aucun sens. Donc il faut bien comprendre que les prélèvements obligatoires, je le répète, sont effectués sur une production globale déjà augmentée du résultat de l'activité non marchande.
C'était donc Debout sur le zinc pour vous détendre les méninges et ça s'appelait Elle m'ennuie. Alors là, j'ai un peu des craintes. En tout cas, attention, vous allez entendre la question la plus désespérée que vous ayez jamais entendue dans des sous.
Alors d'habitude, je dis, j'ai une petite question, un petit truc que j'ai pas bien compris, mais alors là, c'est un gros truc que j'ai pas compris. Vous avez dit à un moment, PIB déjà augmenté du résultat de l'activité non marchande. Je comprends pas.
Qu'est-ce que c'est que le produit intérieur brut ? Le produit intérieur brut, c'est un indicateur qui regroupe toutes les richesses produites pendant une période donnée, l'année le plus souvent, qui ont une évaluation monétaire. Mais il y a deux parts dans ce PIB monétaire. Donc, il y en a une part qui correspond à l'activité privée, l'activité marchande, donc c'est ce qu'on appelle le PIB marchand, et puis il y en a une part qui correspond à l'activité non marchande, c'est le PIB non marchande. Quelle est la proportion de chacune de ces deux parts? Bon, grosso modo, dans un pays comme la France, il y a environ 45% de l'activité totale qui correspond à l'activité non marchande et qui correspond au poids des prélèvements dits obligatoires dans l'économie. Bon. Le PIB, donc, c'est la somme de toutes ces richesses produites ayant une évaluation monétaire, parce qu'il y a une partie de la richesse produite dans la société qui n'a pas d'évaluation monétaire. Le bénévolat, l'activité domestique, etc. Et ce PIB, il a immédiatement pour faculté de créer le revenu monétaire correspondant et qui est distribué sous forme de salaire, de profit aux agents économiques et aux catégories sociales. Bon. Donc il y a une égalité fondamentale en économie, PIB égale revenu national. Pour décrypter le discours libéral et pour y opposer un autre discours plus conforme à la réalité. Donc je disais que les prélèvements obligatoires sont effectués sur un PIB donc qui contient le résultat de l'activité non marchande, le fruit du travail des salariés employés dans l'éducation, la santé, etc. Bon. Et alors c'est très important de comprendre ça parce que ça remet à l'honneur la distinction classique en économie et qui avait été reprise par Marx au XIXe siècle, entre valeur d'usage, qui correspond à l'utilité des produits, des services que nous réalisons, et la valeur d'échange. Et le tour de force, pour ne pas dire le coup de force de la pensée libérale, c'est d'essayer de nous faire croire qu'il y a absolument identité entre les richesses qui n'ont pas de valeur marchande et qui sont de simples valeurs d'usage, et puis les richesses qui ont une valeur marchande. Et justement, la marchandisation consiste à réduire tout ce qui n'est pas marchand à du marchand pour justement faire coïncider ces deux sphères. Et notre combat altermondialiste, justement, est de maintenir, de préserver, voire d'étendre la sphère non marchande, c'est-à-dire qui répond à des besoins sociaux et qui n'obéit pas à la loi du profit. Donc, lorsque les salariés de l'industrie automobile fabriquent des automobiles, ils créent la production qui sera vendue sur le marché. Et en même temps qu'ils créent cette production, ils créent donc une production qui a une valeur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la valeur ajoutée, et ils créent le revenu sur lequel les salaires seront versés pour que le cycle puisse se reproduire après l'injection monétaire initiale dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, dans la sphère non marchande, je prétends que c'est la même chose. L'enseignant, l'infirmière, etc., créent des richesses, créent des valeurs d'usage qui n'auront pas de valeur marchande sur le marché, mais qui, ils créent en même temps, ils engendrent en même temps le revenu qui les rémunérera. L'enseignant, donc, pour répondre à votre question, quand il produit l'acte éducatif, il engendre donc de la richesse sociale et il engendre le revenu qui le rémunérera et qui fera partie du PIB. PIB sur lequel des prélèvements obligatoires seront effectués sous forme d'impôts et de cotisations sociales, et prélèvements qui valideront la décision initiale de répondre à des besoins collectifs, donc la décision qui avait résulté de l'anticipation de besoins collectifs. C'est ça la différence radicale entre le marché et le non-marché, c'est que dans le cadre du marché capitaliste, les entreprises anticipent une demande solvable, pas une demande solvable. Les collectivités publiques, elles anticipent l'existence de besoins collectifs par rapport auxquels il n'y aurait pas nécessairement une demande solvable. C'est justement pour ça que le financement est socialisé, pour pouvoir répondre aux besoins sociaux, c'est-à-dire permettre l'accès du plus grand nombre, sinon, voire de tous, bien sûr, à ces services non marchands. Voilà un petit peu le raisonnement que je propose de conduire pour justement trouver une nouvelle légitimation à la préservation et à l'amélioration, à l'extension de la sphère non marchande, pour en finir une fois pour toutes avec cette idée selon laquelle, eh bien, quand la collectivité décide de répondre à des besoins sociaux, c'est inefficace, comme le disent les penseurs libéraux. Nous prétendons, et moi je prétends par cette petite thèse un peu iconoclaste, je prétends qu'on peut refonder une nouvelle légitimité à l'activité non marchande, c'est-à-dire à l'activité échappant à la loi du profit, à l'activité qui est maîtrisée par la collectivité.
Et bien voilà, c'était Des Sous et des Hommes en compagnie de Jean-Marie Haribet. Alors, si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez taper Haribet dans un moteur de recherche quelconque, Google par exemple. Tout en haut, vous allez voir, il vous propose justement le site de Jean-Marie Haribet. Vous allez donc dans la page d'accueil, à gauche, vous allez trouver quelque chose dans lequel il est écrit « Travaux ». Là, vous allez dedans, puis ensuite, vous avez « Théorie de la valeur ». Et tout en bas, dans les travaux marqués 2004, vous allez trouver le travail productif dans les services non marchands. C'est un document de je ne sais plus quel format, mais qui explique absolument tout avec de très belles formules mathématiques. Je vais essayer de demander à Jean-Marie de me faire la même chose, mais avec des schémas, quoi. En tous les cas, la semaine prochaine, on se retrouve si vous êtes toujours là. Et avec qui, ça est encore un grand mystère. À la semaine prochaine quand même.